messieurs les producteurs de cinéma sonore, regardez-moi, regardez-moi encore. La tête aux sandales, j'ai tout pour plaire, j'ai tout pour faire une vedette internationale.
Bonjour à toutes, bonjour à toutes, bienvenue sur les ondes de Graphite 94.9. Ce matin dans la matinale, nous allons parler musique avec la sortie de l'album de l'Ambulancier. On en parle juste après le générique. Un invité ce matin, Palem Candelier, pour nous parler de l'album de l'Ambulancier. Bonjour Palem.
Bonjour Brian.
Ah, bah si je commence par le mauvais micro, voilà, la matinale commence bien.
Bonjour Brian, bonjour à toutes et à tous.
Bienvenue sur Graphite, on vous a déjà reçu, ou on t'a déjà reçu plusieurs fois à l'antenne. On vient là pour le premier album qui a mis un peu de temps avant d'arriver. Hein. J'ai vu qu'il y avait un accouchement qui était un peu difficile. On en parlera au cours de l'émission. L'Ambulancier, on va commencer par la question la plus basique du monde. Pourquoi t'as choisi l'Ambulancier comme nom de scène et pourquoi tu mets un costume et t'enfiles et quel est l'univers de l'Ambulancier ?
Waouh, plein de questions. Alors, quand j'ai fini, j'avais un groupe que la Picardie connaît sans doute un petit peu qui s'appelait So Was the Sun, qui a duré 10 ans. Et à l'issue de ce projet, j'avais recommencé quelque chose avec des chansons en français cette fois et il me manquait une enveloppe. Et
c'est les Reines du Bal, c'est ça ?
Non, ça c'est un groupe de cover que j'ai, okay, qui est toujours en place. Mais j'avais un truc avec des compos perso. Et je savais pas comment j'allais l'accompagner, sous quel nom j'allais le produire, etc. Et puis je suis tombé complètement par hasard sur la chemise que je porte sur scène, la chemise bleue, qui est une vraie chemise vintage américaine d'Ambulancier. Et ça m'a tout de suite donné le cadre, ça m'a tout de suite donné un personnage. Et je me suis dit que je pouvais m'éclater avec tout ça parce que ça me rappelait des références très pop culture américaine et très cinéma, en fait. Le ciné des années 70-80, Scorsese, De Palma, etc. Enfin, des choses comme ça. La figure de l'urgentiste en arrière-plan des films catastrophes ou des thrillers, donc ça me sortait tout cet imaginaire-là et j'ai vraiment voulu, ça m'a donné une direction artistique, un personnage, et voilà, l'univers de l'Ambulancier aujourd'hui, c'est quelque chose entre la France et les États-Unis, une espèce de film américain nocturne à New York mais qui parlerait français. Et donc c'est tout cet imaginaire-là que je convoque et qui se retrouve d'ailleurs dans la pochette et dans tous mes visuels.
Alors pourquoi j'ai dit que l'accouchement était difficile, c'est que le projet a commencé en 2018, mm-hmm. On est en 2024, qu'est-ce qui s'est passé entre tout ce temps, à part la pandémie, le Covid-19
Je ne sais pas si l'accouchement était difficile, il y a eu un premier maxi en 2021 qui est sorti et qui était enregistré juste avant la pandémie, qui est sorti après, donc c'était une drôle d'expérience de la patience pour moi. Et puis l'album, il a pris 2-3 ans à être écrit, pré-produit, produit, etc., préparé. C'était la première fois aussi que je mettais autant de temps sur un disque et j'ai vraiment choyé tous les aspects, que ce soit le mixage, j'ai travaillé avec un directeur artistique, Hugo Seychose, qui a travaillé avec notamment Eiffel, Bernard Lavillier, Girl. Et jusqu'au visuel, jusqu'à la pochette, jusqu'au CD lui-même, qui est un concept à lui tout seul, étant donné qu'on peut monter le CD pour en faire une ambulance avec son livret. Donc j'ai donné du temps à tous ces aspects-là pour faire une belle sortie, pour faire sortir un disque qui soit pas quelque chose qui disparaisse au bout d'une semaine. Voilà.
Alors évidemment, on sent les influences. Enfin après, quand on chante en français et qu'on fait du rock, souvent on va parler de Noir Désir. Je parlerai même de Villa Fantôme. Je sais pas si tu connais Villa Fantôme.
Alors non.
C'est le groupe qui remplace la Ruda Salska en version beaucoup plus rock.
Okay.
Mais du coup, ça change de l'écrire en français, d'écrire tout l'album en français et de se dire, il y a pas un titre où je peux me cacher en anglais.
Ah oui, ça change. Moi, j'ai adoré ça à tel point qu'aujourd'hui, je pense que au moins maintenant, pour un certain temps, je suis incapable de réécrire en anglais. C'est très bizarre.
On écoute le single, c'était Iowa, qui est le single qui est sorti en premier. Il y a eu un remixage, c'est ça, en fait, par rapport à l'album. C'est pas le même mix qu'on avait reçu à la radio à l'époque ou...
C'est possible aussi, parce que je fais souvent écouter, pas des maquettes, mais des versions un peu pré-prod, parce que j'aime bien faire accéder à mon univers de façon un peu anticipée. Donc, effectivement, on a dû le retravailler, mais en tout cas, c'est la version album qui est prête depuis le début de l'année.
Allez, on écoute ça, on se retrouve juste après. C'est la matinale, on est ensemble pendant une heure.
Ce volcan, mes nuits sont pleines d'infrabasses. Je
Et voilà un extrait de French Manhattan, l'ambulancier avec Iowa, un titre qui est déjà en prog sur Graphite, hein, qui était déjà, quand le single était sorti, on l'avait programmé.
Merci.
Alors c'est vrai que tout à l'heure je parlais de Noir Désir, de Villa Fantôme, mais aussi on peut parler de Luc, on peut parler de toute cette scène-là. C'est quoi la scène française qui t'influence et qui te fait un peu rêver ?
J'ai une scène peut-être un peu plus bizarrement, surtout en français, une scène un peu plus pop ou en tout cas indé, c'est sûr. Moi, je pense notamment à La Féline. J'ai beaucoup de d'influence très très féminine en fait dans la façon d'écrire, en tout cas dans la façon de poser les mots. Il y a La Féline. Je pense à Lisa Portelli aussi. Ça va surprendre, mais j'en parle très souvent. L'écriture, moi, c'est beaucoup. Plus même dans la chanson, Alain Souchon, c'est quelque chose que je trouve, c'est un artiste que je trouve incroyable, notamment sur les textes, et j'en parle très très souvent. Voilà. Après, pour le côté musical, il y a aussi des artistes indés comme Titus d'Enfer, qui est un copain qui fait un truc vraiment unique en son genre. En fait, j'adore les groupes qui ressemblent à aucun autre. Je vois vraiment qu'on écoute La Féline, qu'on écoute Titus d'Enfer, il y a vraiment, je vous mets au défi de dire ah ça ressemble un peu à ça et tout. Voilà, je suis très très influencé. Puis après, pareil. Sans parler français, mais des groupes comme Guy Leband, je suis très très influencé par Carpenter Brut aussi, en synthwave. Ça c'est plus pour le côté musical.
Donc, c'est pour ça que le batteur joue super bien dans l'album d'ailleurs, parce que c'est une boîte à rythme, c'est ça ?
Alors ce sont des batteries programmées, mais j'ai un vrai batteur en live qui, comme dans Carpenter Brut d'ailleurs, joue vraiment au métronome. Et ça donne une super patate, parce qu'on peut jouer sur la dynamique comme ça, ça fait pas trop robotique.
C'est vrai que souvent les groupes aiment pas qu'on les compare à des styles, mais malheureusement il faut classer les disque chez un disquaire, où est-ce qu'on te classe ? Automatiquement, on te classe dans le rock français, quoi.
Ouais, mais j'ai du mal avec cette étiquette, je n'y retrouve pas trop, parce que comme tu l'as dit, on pense à plein de groupes.
Années 90,
ouais. Ouais, voilà, une scène dans laquelle je ne me retrouve pas forcément trop, mais de toute façon, quelque part, je trouve ça bien, parce que de plus en plus, les groupes ont du mal à se référencer forcément à une niche.
Bien sûr.
Il y a beaucoup plus de métissage qu'avant, avec de l'urbain, avec de la pop, avec des musiques d'autres mondes, etc. Donc, je trouve ça bien. Ouais, rock français, c'est vraiment par gros défaut. Moi, j'aimerais plutôt être catalogué soit en rock, point, en fait.
Sur tes pluridisciplinaires, hein, parce que tu fais pas que de la musique, t'as écrit aussi un bouquin sur Nirvana, si je dis pas de bêtises. Là, t'as fait le montage d'une vidéo dont on parlera au cours de l'émission sur une scène de musique actuelle qui est à Château-Thierry, hein, qui s'appelle la Biscuiterie. C'est quoi tous ces envies culturelles ? C'est une boulimie culturelle, c'est quoi ?
C'est une envie de faire. Déjà, ça peut poser la question de pourquoi est-ce que je m'éparpille ? Tout ça a du sens pour moi, enfin, tout ce que. toutes mes petites activités, elles se répondent les unes aux autres parce que j'apprends des choses via certains projets qui reviennent dans l'ambulancier ensuite, que ce soit du montage, que ce soit une façon de comprendre le monde culturel dans lequel on est, et puis la façon dont les gens travaillent, forcément ça irrigue, ça enrichit tout le reste. Puis oui, voilà, j'aime créer en fait, je suis quelqu'un de créatif plutôt. Donc on me dit, comment tu te définirais? Bah, je dirais, bah, je suis au-delà d'être un musicien, je suis surtout créatif, donc j'adore bricoler des trucs, quoi.
Voilà. Et c'est quoi la ligne directrice? C'est l'écriture? La création?
Ouais, c'est produire. C'est produire un truc, c'est produire des bouquins qui. Après, c'est toujours autour de la musique, hein, ce que je fais. Donc, c'est produire des bouquins qui parlent de musique, c'est produire. C'est faire du montage documentaire qui parle d'un secteur musical ou d'une salle. C'est à chaque fois toujours autour de la musique parce que ça me passionne.
Comment on propose un bouquin à un éditeur sur Nirvana?
Dans le cadre d'Encité, je suis vraiment allé le voir. C'est de la candidature spontanée. Parce que la collection. Donc, d'Encité, c'est l'éditeur. La collection, c'est Discogonie. C'est un livre égale un album mythique de la pop, du rock, de la chanson. Voilà, il y a tout, de Rage Against the Machine à Bashung, en passant par The Cure. Récemment, il y a eu PJ Harvey, il y a eu My Bloody Valentine. Il y a eu énormément de styles différents qui ont été abordés. Et puis. Moi je suis juste venu avec mon petit projet. On a commencé sur Nirvana, ensuite on m'a confié l'album blanc des Beatles, qui est quand même vraiment pas mal, enfin qui a été un beau succès aussi il y a 2 ans, c'est sorti il y a 2-3 ans, en 2021. Et puis j'ai continué. Il y a normalement Joy Division qui sort à la fin de l'année prochaine, donc en 2025.
Et comment on devient expert sur ces groupes? On avale plein de choses, on compile les choses des autres, on met sa patte en plus. C'est comment l'écriture pour ce genre de bouquin? Parce que c'est vrai qu'en général, on pourrait se dire, c'est des groupes mondiaux, il pourrait y avoir plein d'auteurs.
Bah, elle est très. Déjà, c'est une écriture qui est très très calibrée, très ordonnée, parce que comme c'est une collection, tous les livres ont la même structure.
Bien sûr.
Donc il y a contexte, genèse, enregistrement, machin, et un chapitre par chanson. Ce qui fait que des fois on a plein de choses à dire, des fois il faut inventer des choses à dire. Enfin, il faut trouver des choses à dire pour des chansons qui n'ont parfois rien à raconter. Il y a des chansons de Nirvana par exemple dont l'année se résumerait en un paragraphe. Donc faut trouver des trucs à dire. Faut une dose de faut aussi, je me bouffe énormément de bouquins anglo-saxons parce qu'il y a une littérature anglo-saxonne sur Nirvana, les Beatles ou Joy Division qui est affolante, alors que nous en France on a peut-être 2 traductions en tout en français. Et c'est cool que ça change parce que je vois des auteurs français, des auteurs, des autrices qui s'emparent de Queen ou de Radiohead. Enfin, il y a eu plein de trucs récemment. Faut pas mal bouffer de documentation, faut compiler tout ça, mais à la fin, comme voilà, il y a un système de chapitrage, ben c'est ludique parce que tu remplis un peu des cases. Tu remplis un peu, ah ça je vais en parler dans telle chanson, ça voilà, est-ce que comment je l'aborde, enfin voilà, c'est vraiment plutôt ludique en fait.
Et le fait de décrypter les chansons des autres, est-ce que pour toi t'as trouvé du coup la recette du titre parfait?
C'est vrai que
c'est la Nirvana, les Beatles.
Ah ouais.
Trouver la formule parfaite, quoi. Change le plomb en or.
J'ai trouvé le complexe parfait à avoir surtout. Ah, putain, c'est dur de faire aussi bien que. C'est surtout intéressant, ouais, sur le côté artisanal, parce que j'ai vraiment pris 2 albums, donc l'album blanc des Beatles, In Utero, et puis aussi un peu Closer de Joy Division. C'est quand même des albums où les mecs bricolent vachement en studio. Il y a une part de travail, mais où il y a aussi une part d'expérimentation et une part de laisser aller. Et en fait, moi, ce qui me fait kiffer, c'est de voir la musique comme un artisanat. Et quand les musiciens eux-mêmes témoignent de choses qui sont essentielles pour tous les gens qui écoutent tel ou tel morceau, qui en fait sont des erreurs, qui sont des tâtonnements, qui sont des trucs un peu faits au petit bonheur, la chance, mais avec toujours une énorme dose de travail, je trouve ça super fascinant, quoi.
Donc là, pour l'album L'Ambulancier French Manhattan, t'as aussi expérimenté. Dedans, on retrouve des effets sur la voix, des effets sur les guitares, des effets peut-être sur les boîtes à rythme, enfin, ce qui t'accompagne. C'est pareil, c'est dans le même processus qu'a pu avoir peut-être Nirvana ou les Beatles sur l'expérimentation?
Ouais, il y a de ça. Il y a beaucoup de bidouilles personnelles en MAO, enfin en musique assistée chez moi, quoi, en studio. Et puis il y a des trucs qu'on a fait au studio, la capsule, avec Hugo Séchose, des trucs de petites propositions d'arrangement, parce qu'il a vraiment eu un regard de directeur artistique, de réalisateur. Ça, je trouve ça super. Il a pas juste appuyé sur enregistrer, puis il a pas juste mixé à peu près le truc, il s'est vraiment donné. Et voilà, des petites idées de rajouter de ci, de là. Par exemple, pour les guitares, on a passé 3 jours à enregistrer les guitare en se posant plein de questions. Quel ampli, qu'est-ce qu'on met à gauche, qu'est-ce qu'on met à droite, tel arrangement, comment on le rentre, est-ce que c'est la peine de faire ça, pour faire sonner tout de façon hyper pertinente en fait.
Est-ce que c'est un album qu'on écoute dans une salle très fort ou est-ce qu'on écoute ça au casque très fort?
Ah,
protéger ses oreilles. S'il y a plein de choses à écouter, est-ce qu'il vaut mieux avoir justement quelque chose de un peu plus interne à la tête?
Non, on n'a pas non plus joué sur du binaural, quoi, si tu veux. Mais par contre, c'est vrai qu'il y a plein de petites interventions rigolotes que j'espère les gens vont découvrir au fur et à mesure des écoutes. Ouais.
Le binaural, pour les auditeurs qui ne savent pas ce que c'est l'audio en 3D, c'est-à-dire qu'on a une spatialisation de l'audio. Quoi. Ouais. Ça, c'est quelque chose qui te botterait de faire quelque chose avec une spatialisation, justement, de pouvoir en plus expérimenter dans l'espace?
Je sais pas, ça fait pas partie de mes priorités. Ce serait moi un truc qui m'intéresse beaucoup plus, c'est les salles qui peuvent se le permettre en live de proposer des expériences comme ça, parce que y a quelque chose qui est sûr et qu'on nous renvoie beaucoup, c'est qu'il y a une différence entre le disque et le live.
Bah alors justement, le live, comment tu fais? Qui sont les musiciens qui t'accompagnent?
Alors j'ai trois brancardiers avec moi, j'ai Baptiste, Joy et Wilson qui me suivent dans les aventures scéniques du projet, voilà, qui sont des super musiciens et musiciennes avec qui j'ai vraiment la chance de bosser. La batterie, comme je disais, est vraiment jouée, elle est jouée au pad, mais elle est vraiment jouée avec des vrais cymbales, donc on regagne la dynamique, peut-être qu'il n'y a pas un studio. En studio, les chansons sont peut-être un peu maîtrisées, domestiquées, etc., très très pensées. En live, on se donne beaucoup plus d'espace et en même temps, on travaille avec un ordinateur. C'est-à-dire qu'il y a vraiment une bande qui tourne derrière pour les petits synthés que je ne peux pas jouer, des trucs comme ça. Et il y a un vrai groupe de live, guitare-basse, avec. Donc on est sur un hybride, on est vraiment sur un truc très. Un cyborg, quoi.
On écoute le titre « Je bois des blanches » et un titre qui rentrera en programmation sur Graphite. Oui. On se retrouve juste après, c'est la matinale.
Et c'est parti de rien, un détail, un dessin, les pièces du puzzle, les jours passés seuls, mon angoisse polie, allongé, j'hallucine, les fantômes à sa gueule, qui se perdent sur la tringle, et je suis ivre de la jungle. Sous mon lit. Si une latte craque, je sursaute dans mon claque. Et bien sûr, quand dormir c'est urgent, la cervelle fait crash. Un bien pour un mal. Tu m'appelles, je bois des blanches en rappel, je vois les terreurs jumelles, et puis j'oublie. Jusqu'à ce que tu m'appelles, je bois des blanches en rappel, je vois les terreurs jumelles, et puis j'oublie. Jusqu'à ce que tu m'appelles, je bois des blanches en rappel, je vois les terreurs jumelles, et puis j'oublie. Jusqu'à ce que tu m'appelles, je bois des blanches en rappel, je vois les terreurs jumelles. Je vois les terrains jumelles, et puis j'oublie. Jusqu'à ce que tu
Et voilà, à l'instant, un extrait de l'album de l'Ambulancier. L'album s'appelle French Manhattan. Il est disponible depuis, je pense, très peu de temps. Je crois que c'est il y a une dizaine de jours.
Oui, c'est ça.
Donc l'album Je bois des blanches, un titre qui va rentrer en programmation sur l'antenne de Graphite. Et puis on va vous parler un petit peu événements culturels. On profite de la matinale pour vous parler des choses qu'il y a à faire ce week-end. Hier, on s'est retrouvés tous au Majestic pour aller voir le film, le nouveau film de Gilles Perret et du député de la France Insoumise, François Ruffin. Donc ça s'appelle Au boulot. Si vous souhaitez encore aller voir ce film, et ben envoyez des petits mails au Majestic pour qu'il continue de le programmer. Vous étiez à peu près une soixantaine hier soir. Et puis nous on continue avec ce vendredi. Il y a une soirée d'écoute et d'échange proposée par les fédérations des radios associatives du Nord de la France. Ça s'appelle Oh les filles. C'est donc un programme porté par les filles de la fédération qui ont fait donc tout un programme que vous pourrez écouter en public ce week-end. Par contre, c'est un peu plus loin. C'est à Arras, chez PFM, dès 18h. Et c'est le vendredi 29 novembre. On va continuer avec également des choses à faire. Alors, il n'y a pas beaucoup de concerts dans le Compiénois là prochainement. Mais vous pouvez notamment aller voir Frustration qui passeront également à Arras. Il reste quelques places. Ça, c'est samedi et vendredi, ils seront à Amiens. Malheureusement, Amiens, il n'y a plus de place. C'est à la Péniche Célestine. Et si vous aussi voulez voir ce que propose la Péniche Célestine, c'est une salle portée dans une péniche, et ben, allez faire un tour sur la page Facebook de la radio. On partagera toutes les informations. C'est quand, toi, des prochains concerts? Alors, tu m'as dit que tu as beaucoup travaillé sur l'album et que tu es en train de faire des démarches pour jouer. C'est quoi les prochaines dates?
Le stock de Mency, donc en région parisienne, le 28 février, voilà. Je peux annoncer en avance, alors encore et toujours Paris, je suis désolé, j'ai hâte de jouer, de revenir jouer ici, ce qu'on avait joué à Amiens il y a deux mois. Le 14 mars, donc à la Péniche Antipode, dans le 19e arrondissement. Voilà, ça c'est une exclue, parce que j'en ai parlé encore à personne. J'en ai même
le groupe, il est
public. Le pire, c'est que c'est vrai.
Même la salle n'est pas au courant.
Oui, voilà. Ils ne le savent pas. Donc l'Olympia, non. Et voilà, et là, je suis vraiment en train de démarcher. J'ai beaucoup envie de tourner dans les Hauts-de-France parce que, notamment, j'ai joué avec une artiste des Hauts-de-France, Daphné Swan, pour ma release party là, qui a eu lieu le 22 novembre dernier. Donc ça m'a bien donné aussi envie, moi, de monter à Lille.
Alors justement, il y a deux formats. Est-ce que tu joues tout seul avec la boîte à rythme et puis un coup avec les musiciens, ou non, c'est quand on prend pour le package complet avec les musiciens?
Alors l'idéal, c'est le package complet parce que c'est là où, et vous le verrez sur les vidéos live qu'il y a sur mon compte, c'est là où il y a la full énergie. On a aussi la formule d'être à deux avec mon percussionniste parce que moi je peux jouer de la gratte, les basses je peux un peu les émuler avec de l'électro. En revanche, ça me manquerait énormément qu'il n'y ait pas cette dynamique d'une batterie et des cymbales et de l'interprétation de batterie, même si c'est des pads électro. Donc en fait, c'est moi qui prends la gratte à ce moment-là. Et on propose un set un petit peu différent, donc avec Wilson. Et on fait une formule duo comme ça, qui peut aussi très très bien marcher en première partie et qui nous a même permis de gagner un tremplin à Créteil récemment. Voilà.
Alors ce qui est assez drôle, c'est que c'est un album de 10 titres, hein, c'est à peu près le format d'album, avant c'est un EP. Hein. Et en plus il y a des bonus, notamment des lives, beaucoup de lives à main d'œuvre. C'est des lives en public ou c'est des lives qui ont été joués dans les studios de répétition de main d'œuvre?
C'est l'enregistrement de la session live qu'on voit en vidéo. Il y a 4 sessions live qui sont sorties pour accompagner l'album depuis maintenant plus d'un an, parce que la première a dû sortir en septembre. Donc j'ai étalé comme ça de 4 morceaux que j'avais enregistrés l'été 2023. Avec mon groupe devant des caméras pour montrer le travail de live que c'était. Et comme c'est des versions dont en plus on me disait du bien au fur et à mesure, les gens me disaient qu'ils se les passaient sur YouTube et qu'ils étaient un peu embêtés de ne pas pouvoir les écouter autrement, je me suis dit je vais les mettre en bonus mais que sur la version CD, donc on peut acheter sur Bandcamp ou sur le site de Tadam Records pour aussi donner un petit plus musical à la version physique.
Et enfin, ça fait un vrai album de contenance, parce que c'est vrai que les albums souvent maximum c'est 12 titres. Là, un album avec 15 titres, c'est généreux quoi.
Ouais, bon, avec des petits bonus qui répètent des morceaux qu'il y a déjà dedans, mais moi l'idée, mais de toute façon je voulais faire 10 titres en fait, je savais que je voulais faire 10 titres. C'est un chiffre rond, plus ça m'aurait paru un peu bavard, moins ça m'aurait paru cheap. C'est vraiment le pile bon format, avec en plus des petits cadeaux.
Alors là, on l'a dit tout à l'heure en début d'émission, il y a un petit pliage pour avoir une ambulance en format ambulance avec le CD et puis les pochettes qui est à l'intérieur. L'objet, c'est important. Est-ce qu'il y a un vinyle qui est prévu? Est-ce que c'est quoi le rapport avec l'objet?
Alors, il y a plein de choses là. Le premier, c'est que c'est vrai que le format physique roi en ce moment, c'est plutôt le vinyle. Ça coûte un certain prix. donc à produire, et je pense que j'aurais pas pu faire le même concept avec le livret, voilà, qui s'emboîte là. Mais en fait Brian est en train de le faire en direct, c'est pas du tout c'est très visuel, c'est pas du tout radiophonique, mais voilà, vous avez une idée un peu du truc. Et voilà, en fait, quitte à faire un CD qui est pas un format beaucoup répandu maintenant, autant que ce soit un bel objet et qu'il y ait une valeur, voilà, vraiment une valeur intéressante là-dedans. Donc avec mon graphiste Olivier Laude, on a voulu vraiment faire quelque chose de beau, pas juste un disque dans sa boîte, et créer un truc qui graphiquement se tient, quoi. Donc voilà.
Alors t'es tout seul sur, y a pas de musicien dans l'ambulance? Ouais.
Ah, il n'y a pas de musicien dans l'ambulance, non, ils sont nommés à l'intérieur. Mais si la question c'est, est-ce que j'ai enregistré avec d'autres personnes?
Dedans c'est tout électronique.
Non, il y a des gens qui sont intervenus. Hein. Il y a trois bassistes qui interviennent dans ce disque. Les guitares c'est moi qui les ai faites. Les cymbales c'est mon percussionniste qui les a faites. Donc faut imaginer le niveau d'abstraction de la personne, de faire juste la cymbale sans le reste de la batterie, c'est assez drôle. Et puis il y a des petits chœurs, hein, ouais, de ci de là qui ont été faits par des amis. Donc ça, c'est un album où il y a quand même pas mal de petites collabs et d'aides sans qui j'aurais pas pu faire tout ça.
Il y a un looper. Moment, tu chantes et c'est une loupe que tu fais, ou c'est quelque chose qui est fait dans le mix?
Non, tout est écrit en fait. La loupe, j'en faisais il y a très très longtemps, quand il y a eu le grand démarrage des pédales de loupe où on pouvait faire des trucs en direct, et je sais qu'il y a des artistes qui le font très très bien. Moi en live, ça déroule.
Alors j'imagine que tu es né dans les années 80.
Oui.
Puis un petit clin d'œil au Tortue Ninja avec le titre Donatello. Ouais. C'est quoi ce titre Donatello? Enfin, on va entendre ce qu'il nous raconte, mais pourquoi un titre sur les Tortues Ninja?
Et pourquoi pas? Je sais pas, c'est venu peut-être parce que le titre est assez, a une esthétique assez 8 bits et rétro, en fait. Vraiment vieux synthétiseur de jeux vidéo. Ça m'a peut-être évoqué ça. Ça m'a permis aussi d'aborder le fait que c'est cool d'être dans un groupe de personnes. Enfin, l'idée c'est de retrouver une sorte de fratrie ou d'adelpherie avec des gens, parce que je suis fils unique, donc je me pose toujours la question, qu'est-ce que c'est de vivre à plusieurs en fait. Et puis ça m'a permis aussi de faire un petit hommage pop, et puis de dire, enfin de faire un super clip que je conseille aux gens d'aller voir, voilà, qui est sorti il y a deux semaines, et qui est une épopée ninja de 3 minutes.
Et pour revenir sur le film, sur le cinéma, c'est quoi tes influences pop culture?
Alors John Carpenter, ouais, énormément. Mes influences pop culture sont situées vraiment du côté des États-Unis, John Carpenter, et puis l'affiliation littéraire normale de H.P. Lovecraft, quoi, qui sont, voilà, des choses qui comptent énormément pour moi.
Donc, la SF, quoi.
La SF un peu bizarre, un peu sociale, un peu angoissante, plus l'angoisse en fait que la peur, enfin plus l'angoisse que l'horreur en fait, vraiment. Voilà, donc je disais le cinéma des années 70, 80, 90, Scorsese de Palma, tout la vague de cinéma indépendant américain. J'essaie de trouver d'autres trucs. En littérature, je suis aussi assez fan, je dois le dire, malgré le personnage de Michel Houellebecq.
Sur l'écriture?
Ouais, sur son côté assez direct, enfin très, très concret en fait, du quotidien.
Donc tu sépares l'œuvre de l'artiste?
je sais pas où on va là-dessus, mais ce qui est sûr c'est que c'est un page turner, quoi, donc à chaque fois je bouffe les livres et ça m'influence beaucoup. Je lis énormément en ce moment, je lis énormément de poésie, Robert Desnos pour le plus vieux, Cécile Coulon pour les plus récentes, voilà, beaucoup de poésie écrite par des hommes, des femmes. Je me suis bouffé tout l'été énormément, ouais, de poèmes et d'auteurs, d'autrices comme ça. Et puis voilà, pour les jeux vidéo, ouais, les jeux rétro, beaucoup d'influence pop culture, et y en a une qui j'arrive pas à sortir, mais qui va me revenir peut-être un peu plus tard, mais enfin voilà, les gens auront cerné assez vite que je suis effectivement un gosse des années 80.
Bon, on écoute Donatello, ça te laisse le temps de réfléchir. Donc c'est l'album, ouais, L'Ambulancier. L'album s'appelle French Manhattan, il est disponible sur les plateformes et également disponible sur Deezer, Spotify et compagnie, sans les versions live. Mmh. Et on se retrouve juste après ça.
Plus dur, ma carapace. Si mon art mûre se casse. je cherche sans prétention le retour de bâton. J'ai deux fois l'âge d'un ado. Je veux sortir du réseau, un héros, un télo, jamais en solo. Kiki, j'attaque son couteau, sans même besoin d'un bandeau. Un héros, héros, un télo, héros, un télo, et fier comme Donatello. Je pratique l'art martial, comme la loi qui fait mal, rend les gens animaux. Plus dur ma carapace, si mon armure se casse, dans les bouches de métro. Héros à télo, comme Donatello, comme Donatello, comme Dona. Héros à télo, comme Donatello, comme Donatello.
L'ambulancier sur les ondes de Graphite 94.9 avec Palemk avec nous pour parler de cet album French Manhattan qui est disponible dans les bacs et disponible sur les plateformes. Aujourd'hui, c'est combien le tirage d'un CD pour un artiste? C'est 1000 disques, 1000 CD?
Ah, j'aimerais bien. Non, nous on a fait moins. Alors on a fait moins pour plein de raisons, parce que alors déjà j'avais fait une campagne de d'aide au financement Ulule qui avait super bien marché. On avait dépassé l'objectif. Donc moi de toute façon, je savais que j'avais envie de produire un certain stock de CD pour les gens qui me suivent et me soutiennent avec la promesse d'un bel objet. Après, il y a beaucoup d'exemplaires qui sont partis en presse, en promo, etc. Donc là, pour l'instant, on est sur un petit tirage. Si vous l'avez chez vous, vous êtes les heureux détenteurs, détentrices d'un petit tirage de 300 exemplaires. Et en fait, parce qu'avant, j'en tirais beaucoup, 500 ou 1000, je me retrouve avec des caisses à la maison, sur les bras. Donc là, pour la première fois de ma carrière, je vais peut-être faire un repressage. Et ça, je trouve ça génial.
Donc un conseil aux artistes, sortez 200 disques pour être... vaut mieux en ressortir.
Ouais, vaut mieux ce feeling-là. Et puis savoir vraiment où ça va plutôt que pas trop savoir quoi faire avec, quoi.
Ça s'est posé la question de la sortie physique ou pas? Parce que du coup t'as fait un objet. Est-ce que tu t'es posé la question, disons, on va sortir vraiment un disque, un objet, enfin quelque chose à... Il y a des artistes qui aujourd'hui disent bon, en fait ça sert à rien de sortir, autant sortir les titres sur les plateformes.
L'idée, vu que j'avais avec Olivier Laude, le graphiste, on avait une bonne idée en fait d'objet, donc ça, déjà ça justifie le truc. J'ai un projet qui quand même a un sens visuel, a une DA en fait aussi, donc fallait qu'il y ait quelque chose de physique. Et en physique, il y a un autre format aussi qui existe, que les gens sur Ulule ont eu et que je redévelopperai un peu plus tard, c'est la clé de l'ambulance, qui est une clé USB en forme de clé de bagnole, et sur lequel il y a l'album en dématérialisé et puis quelques petites surprises dedans, d'autres bonus d'ailleurs qui sont pas sur le disque, et sur la version CD. Et c'est un autre format physique rigolo qui se met dans la poche et qu'on pourrait utiliser après si vous avez besoin d'une clé de giga, enfin voilà quoi.
C'est bien,
faut avoir l'idée.
Bon argumentaire. On a parlé du comment ça s'appelle, de la jaquette là, de la chemise.
Oui,
voilà, je suis à l'américain.
Waouh.
Voilà, c'est pour ça que je m'appelle Brian. Du coup, t'en as acheté une deuxième, si on trouvait une scie demain, elle disparaît. Comment tu fais pour la scène? T'as pas lié à ce problème?
Ouais, j'ai une anecdote un peu longue à ce sujet, mais je vais essayer de la faire courte. Oui, c'est une chemise qui a vraiment été unique en son genre et qui est produite qu'aux États-Unis. Ce type de coupe bleue avec des pochettes, des épaulettes.
Ouais, c'est
etc.
Genre tout qu'on peut trouver chez Kilo Shop, quoi.
Ouais, c'est que un gros coup de chance en fait en France de le trouver. Et aux États-Unis, il y avait un qui produisait et c'était un mec qui pouvait, enfin une entreprise qui ne pouvait envoyer qu'à l'intérieur des États-Unis. Donc j'ai contacté une amie américaine pour recevoir la chemise et qu'elle me le renvoie ensuite. On a fait ça, je l'ai fait faire donc un peu sur mesure par une entreprise américaine, et j'ai voulu pousser le vice jusqu'à avoir mon nom sur le, un peu en badge sur une des pochettes, donc P. Candilier. Et quand ma pote a ouvert le truc, elle s'est rendue compte que les mecs avaient écrit P. Chandler, comme Chandler de Friends. Et elle dit, ah, ils ont américanisé Palem, c'est rigolo. Et en fait, on a été obligé de la renvoyer. Je voulais mon vrai nom, mais ils ne voulaient pas, en fait. Donc, ils ont enfin consenti. Puis là, voilà, la chemise a encore fait des milliards de kilomètres pour arriver jusque moi. Mais oui, j'en ai une de secours, ouais.
Et pas avec ton vrai nom.
Mais si, ils l'ont fait avec mon vrai nom. Mais ça a failli, j'ai failli m'appeler Chandler, quoi, sur scène.
Est-ce que les ambulanciers, tu as eu des contacts avec des vrais ambulanciers où c'est leur métier, est-ce qu'ils écoutent le disque dans l'ambulance?
J'ai vraiment un petit suivi bienveillant de certains groupes sur notamment sur Facebook ou même des gens qui me contactent sur Instagram pour me demander quel est mon métier. Donc c'est assez drôle. J'ai aussi surtout les collectionneurs d'ambulances, parce que pour un de mes clips, j'ai dû louer une vieille ambulance vintage. Donc je suis un peu en lien avec tout ce monde.
On va réécouter un extrait, puis juste après on parlera du documentaire sur la biscuiterie. En attendant, on écoute un petit spot pour une collecte de jouets qui est organisée par le département de l'Oise en faveur de Emmaüs. On écoute ça, on se retrouve juste après et on sera en compagnie du directeur de la salle de la biscuiterie à Château-Thierry. Tout de suite, le spot et ensuite un extrait. On écoutera l'ambulancier song, qui est un peu le titre éponyme de l'album.
Vos enfants grandissent, leurs jouets ne servent plus. S'ils sont en bon état, donnez-leur une seconde vie grâce à la grande collecte de jouets du conseil départemental de l'Oise au profit d'Emmaüs. Grâce à vous, les enfants les moins privilégiés auront des cadeaux à Noël. Vous avez jusqu'au 6 décembre pour vous rendre dans les lieux de collecte du département. Retrouvez-les sur oise.fr.
Le conseil départemental de l'Oise, chaque jour à vos côtés.
Une voiture à peine, un corbillard pour vivant, qui ne s'arrête jamais, prisonnier dans les veines d'un quartier dirigeant. Et les barres HLM, parce qu'il y a des impacts qui éclatent le vent. Et des montées de haine, comme toi sur un banc, j'attends de voir passer l'ambulancier. Le long des autoroutes, sur les aires de repos, là où tout est pareil, je tends l'oreille, j'écoute, j'ai des goûts très rétro. J'apprécie le vermeil et les sirènes hurlantes qui viennent m'éclairer. Me ramener à bon port, ça va me soulager de voir dans l'angle mort l'ambulancier. L'ambulancier. Où on est brillé, c'est peut-être une personne, mais on la voit jamais, sauf en état d'urgence. We'll be right back.
L'ambulancier song extrait de l'album de l'ambulancier qui s'appelle French Manhattan, qui est dispo dans les bacs. On est en compagnie de Palem toute la matinée, pour, enfin toute la matinée, toute pendant l'émission de la matinale, peut-être pas toute,
toute la matinée.
Et on est en compagnie également de Xavier Lelièvre, qui est directeur de la biscuiterie à Château-Thierry. Bonjour Xavier.
Salut.
Bienvenue sur notre antenne. On va parler d'un documentaire. On profite de la venue de Palem, puisque je crois que vous avez accouché ensemble d'un documentaire. Palem m'a dit que l'accouchement était douloureux, justement, parce qu'il a fallu mettre un peu de temps. Est-ce que tu peux nous présenter qu'est-ce que déjà la salle, la biscuiterie, pour les auditeurs qui ne connaissent pas la biscuiterie ?
Alors, la biscuiterie, c'est une salle de concert qui est située à Château-Thierry, entre Paris et Reims, donc d'une capacité de 300 places à peu près. Et donc on organise principalement des concerts toute l'année, que ce soit en salle, mais aussi pas mal hors les murs sur Château-Thierry et sa région.
Alors toi, t'es responsable ou directeur, je sais pas c'est quoi ton statut aujourd'hui, mais récemment, avant t'étais sur l'action culturelle, petite équipe pour la biscuiterie. C'est quoi le fonctionnement, c'est quoi, c'est une asso ?
On est une asso, ouais, exactement.
Et quels sont les derniers concerts que vous avez joués là récemment ? C'était quoi ce que vous avez programmé ?
Alors récemment, la semaine dernière, on a eu Edith Nylon à la biscuiterie, un nom de la scène post-punk là, des années 80. Plus anciennement, on a eu Travomit dans une autre salle à Château-Thierry pour un concert très très chouette. Donc de toute façon, comme toutes les salles, hein, le mois de novembre est assez chargé, on en a toutes les semaines. Là, le prochain, c'est Johnny Montreuil, semaine prochaine également à la biscuiterie, donc c'est un chouette mois.
Et quand est-ce que vous recevez l'ambulancier ?
Eh ben, c'est une excellente question.
Je fais l'entremetteur.
Merci.
Donc avec Palem, Palem a travaillé sur le mixage, le montage. Sur un documentaire qui s'appelle La Biscuiterie, une histoire rock and roll avec N, la version du département dans le titre, qui est disponible sur YouTube. Alors justement, un très beau documentaire qui montre un peu l'importance des politiques volontaristes locales, parce qu'on voit quand même qu'il y a du coup un groupe de citoyens qui veulent monter et faire de la culture dans l'Aisne, en milieu plutôt défavorisé, puisque les départs des usines. Et donc on voit qu'il y a quand même une aide assez bonne des politiques. Il faut le bon mélange. Il faut des citoyens motivés et des politiques qui ont une écoute et qui sont volontaristes.
Bien sûr, ouais. Et puis je pense que le troisième élément, c'est aussi du public, des gens qui réagissent un petit peu à l'initiative. Mais c'est certain que sans ce petit groupe là, d'acharnés dès le départ, et le soutien dans un premier temps de la mairie, tout ça n'existerait pas aujourd'hui. Donc c'est une belle histoire qui est un peu à l'image du montage avec Palem, qui a été compliqué. Donc c'est une histoire aussi compliquée, qui est longue à se mettre en place, mais qui a permis de faire naître un projet qui est quand même assez chouette et surtout assez inédit pour une petite ville comme Château-Thierry. Donc c'est un modèle assez enthousiasmant et qu'on espère encore exister pendant très longtemps.
Donc là, la scène principale, c'est la biscuiterie, mais vous programmez également pour la ville de Château-Thierry, dans un espace qui est beaucoup plus grand, style Palais des Congrès ou petit
zénith. Le Palais des Rencontres.
Palais des Rencontres, c'est un peu un petit zénith, c'est ça ?
Un tout petit zénith, hein. On est sur une jauge à 1200 places. Mais donc 3-4 fois celle de la biscuiterie. Donc nous, ça nous permet aussi une certaine liberté dans nos programmations et d'aller chercher des choses qu'on peut pas forcément accueillir chez nous. Donc c'est chouette, et même pour les gens à Château-Thierry, d'avoir une proposition en local et pas avoir besoin d'aller à Paris ou à Reims pour assister à un concert un peu plus de plus grosse envergure.
Il y a également des studios de répète et d'enregistrement.
Exactement, les studios ou bien studios qui existent, qui sont apparus bien avant la biscuiterie encore, et qui encore aujourd'hui tournent. Il y a deux studios de répétition, un studio d'enregistrement, un studio aussi vidéo pour tous les projets, notamment de montage. Donc ça aussi, c'est des outils qui sont super chouettes, ouais.
Alors toi aussi, t'es auteur d'ouvrage, hein, puisque t'as écrit un ouvrage sur Daniel Johnson. C'est le lien qui vous fait, c'est parce que du coup Palem a écrit des livres sur Nirvana et sur les Beatles, et un prochain sur Joy Division. C'est ce qui vous relie. Comment vous êtes rencontrés ? C'est quoi l'histoire de cette collaboration pour le film ?
Bah écoute, de ce que je sache, en tout cas, ça a pas de rapport avec tout ça.
C'est vrai.
Si je me souviens bien, on avait dû faire une annonce, un appel à candidature, parce qu'on avait besoin d'un regard extérieur pour justement travailler sur ce dossier. Et donc Palem avait répondu à cet appel-là. Et puis voilà, tout ça, ça s'est fait un peu au fur et à mesure. Et en tout cas, on est très content du travail qu'il a effectué là-dessus, parce que sans ce regard vraiment un peu indemne de toute cette grosse histoire, on n'aurait pas eu cet objet aujourd'hui. Non, c'est super.
Alors là, c'est sur le passé de la biscuiterie. Est-ce que vous êtes en train d'écrire le futur? Est-ce que vous enregistrez des rushs pour faire la suite de l'épisode?
En tout cas, on essaie déjà d'écrire le présent. Donc on y va tranquillement. C'est sûr que ce genre d'exercice-là, ça oblige à pas mal de sacrifices, et notamment à couper beaucoup d'interventions et beaucoup de personnes au montage final. Donc c'est assez frustrant. C'est certain que si on avait l'occasion de refaire un épisode 2, on essaierait de corriger un petit peu toutes les personnes qui n'y figurent pas, ou toutes les choses qu'on n'a pas pu décrire avec précision. Mais ça, on verra. Pour le moment, on a ce documentaire-là. C'est une belle trace déjà de l'histoire de la biscuiterie, de ce qui a existé jusqu'ici. Et puis, espérons peut-être que dans 10, 15 ans, peut-être moins, peut-être plus, peut-être pas nous d'ailleurs, les personnes qui sont.
Alors ça coupe, mais on a compris que oui, c'était les personnes qui vont peut-être suivre le projet par la suite. Je sais pas si tu nous entends toujours, Xavier. Là, je sais que la communication,
oui,
ouais, c'est la communication avec Len est toujours très compliquée. Hein. pour terminer, avant de se quitter, la programmation, là, vous allez avoir, tu l'as dit, Johnny Montreuil. Il y aura également l'école, l'histoire musicale de Lilou, quelque chose de jeune public. Et également le 13 décembre, il y aura Tété qui va venir. Ouais. Donc on retrouvera un des producteurs de l'album L'Ambulancier, hein, dedans.
C'est vrai qu'il joue avec Tété.
Donc voilà. Et après, il y a des grosses dates qui vont arriver au Palais des Rencontres avec Massisteria le 22 février prochain, et Asia Dome Foundation avec la Punk Caravan au mois de mars prochain. C'est quoi le format d'Asia Dome Foundation?
Le format de la date?
Ouais, ils vont venir à plein.
Ce sera la biscuiterie.
Ok, en format...
Ce sera la biscuiterie, donc on va être serré, ça va être chouette. Et donc on fête aussi bien les 30 ans d'Asian Dub que les 15 ans de la Punk Caravan.
Okay.
Donc soirée double anniversaire, et ça va être la fête.
Très bien. Bah, en tout cas, merci beaucoup de nous avoir consacré un peu de temps. On invite les auditeurs à aller voir le documentaire. On va finir de parler du documentaire avec Palem. Très bonne journée, et puis à bientôt. On retrouve toutes les informations sur biscuiterie.org, notamment si vous voulez aller prendre des places et puis faire un tour du côté de l'Aisne, la biscuiterie. Et bonne journée.
Merci.
Salut
les gars.
Salut,
à bientôt.
Salut.
Alors du coup, c'est quoi cet accouchement? Qu'est-ce qui a été difficile dans l'accouchement de ce documentaire? Le choix, justement, comme il l'a dit, de garder des parties, de retirer des personnes, des témoignages?
Ouais, il y a eu deux choses. Déjà, le fait que pour moi, j'ai dû me reconstituer une timeline, parce que comme le dit si bien Xavier, j'étais pas du tout au fait de toute cette histoire. Et il faut remettre les choses dans l'ordre. Et plus que mettre les choses dans l'ordre dans sa tête pour soi, il faut aussi les mettre pour les gens qui vont regarder et qui comprennent pas forcément quelles ont été les différentes étapes. C'est un processus qui parfois peut être extrêmement clair, puis d'autres fois il y a plusieurs choses qui se superposent, qui arrivent à un résultat, donc il faut réussir à bien le raconter, surtout que moi ce que j'avais comme matière c'était des images d'archives qui parfois étaient dures à trouver, parce que tout ce qui est sur internet d'avant 2014 n'existe presque plus en fait, n'est plus accessible, donc il fallait aller demander aux gens de donner des archives, et puis j'avais des entretiens, donc il fallait aussi raconter ça par la voix des gens qui racontaient, puis qui racontaient pas forcément les mêmes événements, ou qui n'avaient pas forcément pour qui les moments phares n'étaient pas forcément les mêmes. Donc en fait, il fallait reconstituer tout ça, parce que chacun voit par son petit bout de la lorgnette. Donc il y a eu un gros taf pour raconter les choses dans un ordre clair, où on voit bien les effets, les causes, etc. au fur et à mesure. Et puis après, il y a eu des longs mois à s'envoyer des montages. On a pris aussi le Covid aussi dans la gueule, plus ou moins à ce moment-là. Donc il y a eu des effets de retard. On a pris des moments aussi pour avoir du recul. Enfin, on a pris un petit peu des petits retards partout. Au fur et à mesure, c'est vrai qu'on essaie d'avancer au fur et à mesure, en se donnant la possibilité de effectivement d'enlever des choses, ce qui était compliqué parce que voilà, comme le dit si bien Xav, il y a plus de gens que ça qui ont été qui ont été interrogés pour ce documentaire et qu'il a fallu couper au bout d'un moment, au bout de pas mal de tergiversations, on garde pas, à quel point c'est important, à quel point c'est toujours un peu crève-cœur aussi. On a réussi à arriver à 40 minutes. Au début, on était à plus d'une heure. Donc, faut gagner des petites secondes de ci, de là pour arriver à un documentaire qui s'avère compact, regardable par le plus grand nombre, quand même sur un temps qui n'est pas trop long, avec un effet pas trop fatigant, en fait, du côté d'avoir des intervenants qui s'expriment comme ça sur des images d'archives. Et voilà, réussir à faire concis, quoi. Donc, ça a demandé du temps.
Ça serait plus facile de faire ça avec un projet actuel, avec le fait qu'on ait beaucoup de photos, de vidéos, de choses. Qu'avec un projet qui a commencé il y a 30 ans presque.
Ouais, c'est vraiment à se demander. Moi, j'ai un peu cet effet-là sur, par exemple, si vous créez une page, je fais un pas de côté, mais si vous créez une page Wikipédia pour quelqu'un et dont l'activité se situe avant 2014, c'est pour donner des sources en ligne, pour faire accéder à ces sources primaires, secondaires, etc. Enfin, tout un jargon documentaire que je vais pas détailler. C'est très très compliqué. Donc, pour trouver des informations, des archives sur Internet, sachant que beaucoup de choses disparaissent, sont effacées, que des pages créées par des fans ou etc. Qui pourraient donner des documents importants s'effacent, que les serveurs fonctionnent plus ou on fait un gros nettoyage, ben c'est un parcours du combattant des fois de retrouver, puis en bonne qualité, retrouver des choses en bonne qualité, c'est très très compliqué.
Où est-ce que toi on retrouve tes informations uniquement sur Facebook? Est-ce qu'il y a un site internet? Quelles sont les pages?
Alors j'ai parlé de Facebook, mais en fait c'est vraiment un réseau que je déserte, mais sur lequel je suis de moins en moins. Je priorise beaucoup Instagram parce que je poste des stories, je poste énormément de contenu et de nouvelles. Je suis même sur TikTok, j'apprends doucement. C'est pas évident, faut comprendre la grammaire. Ouais, faut comprendre la grammaire de cet endroit, mais pourquoi pas. Non, vraiment, ouais, vraiment Insta, une page Bandcamp aussi pour acheter le disque, une page sur mon label Tadam Records aussi, label que j'ai monté avec mon manager Yann Landry. Voilà, c'est le gros des réseaux sociaux. Aussi, je suis sur Threads justement, relié à Instagram. Voilà, donc j'ai plutôt investi ces endroits-là pour que les gens me retrouvent.
On te retrouvera, nous on partagera sûrement, je pense, la page Linktree, en fait, qui permet d'avoir accès à un peu tout ce que tu as fait, notamment les clips, si vous voulez voir les clips, les playlists, et puis l'album disponible, si vous voulez les commander. Merci beaucoup d'être venu ce matin,
Brian,
pour nous parler de cet album et nous parler de l'ambulancier, le personnage de l'ambulancier. Nous, on va se quitter avec le titre Le Point de Patinage pour terminer, et puis bon, on vous souhaite rendez-vous très prochainement pour une matinale, et puis je peux te laisser le mot de la fin si tu veux.
Ah, le mot de la fin, manger des disques, soutenez les artistes, aller au concert surtout, c'est très 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 important, les gens ont beaucoup de choses à dire, et dans les Hauts-de-France en particulier, voilà.
Vos enfants grandissent, leurs jouets ne servent plus. S'ils sont en bon état, donnez-leur une seconde vie grâce à la grande collecte de jouets du Conseil départemental de l'Oise au profit d'Emmaüs. Grâce à vous, les enfants les moins privilégiés auront des cadeaux à Noël. Vous avez jusqu'au 6 décembre pour vous rendre dans les lieux de collecte du département. Retrouvez-les sur oise.fr.
Le Conseil départemental de l'Oise, chaque jour à vos côtés.